Bonjour et bienvenue dans Certains Lama Show, l'émission qui fait des oreilles de lapin au film à la sortie.
Salut Thierry.
Il y a Hitler derrière moi, Thomas.
Encore ton ami imaginaire, Thierry.
Mais je sais pas pourquoi, depuis que je me suis rasé la tête, il apparaît partout, il me dit coucou et il me propose de me rallier à sa cause, mais je sais pas vraiment ce que c'est.
C'est pour ça le petit short et le brassard rouge ?
Non.
T'as une façon bizarre de te tailler la moustache quand même depuis quelques jours. Aujourd'hui, vous l'avez compris, ça va être dans la finesse. Une très très belle semaine de films avec notamment un long métrage qu'on attend depuis assez longtemps, on peut le dire, Jojo Rabbit de Taika Waititi.
Tyler Waititi selon son traducteur pour les intimes.
Oui, bon, il avait un traducteur hasardeux. Bon, d'accord. Certes. Mais ça tombe bien parce que juste après, on va voir les traducteurs qui vont gérer ça.
Ah, il va falloir qu'ils rattrapent un peu le boulot.
Avec Lambert Wilson. Et enfin, on reste dans l'international avec Cuban Network, un magnifique film d'espionnage. Magnifique, on verra.
Ouais, mais attends, Olivier Assayas qui s'essaye à l'espionnage, carrément, pourquoi pas, faut tenter. Tenter.
On va tenter. Et pour remédier au scandale de la semaine dernière, la production nous a cadenassés et nous a programmé des invités, eux, de choix.
Tout à fait, nous aurons donc pour Jojo Rabbit, on va avoir la manie du cinéma, cette chère Mélanie qui vogue sur YouTube depuis pas mal de temps. On va avoir également Lucie de Limlu qui est illustratrice storyboardeuse. Et pour les traducteurs et Cuban Network, nous récupérons une amie de longue date, Wonder Laura de Fucking Cinéphile. Ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue.
C'est vrai que ça faisait longtemps, moi ça me fait super plaisir. D'autant qu'il y a ça aussi qui nous rejoint.
Ouais, et c'est quand même le deuxième épisode à la suite où Yassa vient, mais que se passe-t-il quoi, il y a des miracles.
Allez. Ça commence tout de suite avec Jojo Rabbit. Rabbit.
Here's Marshal Jojo. You're our top man. Prepare to leave the house.
Today you boys will be involved in such activities as war games, ambush techniques, and blowing stuff up.
I don't think I can do this.
Was?
Of course you can.
Aber dann kommst du.
When I was your age, I had an imaginary friend. Got me in so much trouble.
Kids, it's time to burn some books!
Yeah! On va parler le film.
C'est magnifique, mais de quel film allons-nous parler? On va parler de Jojo Rabbit, de Taika Waititi, avec Roman Griffin-Davis, Thomasine McKenzie, Scarlett Johansson et Taika Waititi, dans un rôle sublime d'ami imaginaire.
Alors ça y est, dès l'instant qu'il joue Captain Payette, Sam Rockwell pue la merde, quoi.
Sam Rockwell aussi, effectivement. Et Rebel Wilson aussi.
Et voilà. Allen.
Voilà. Non, mais on peut faire tout le cast aussi. Et d'ailleurs, le troisième assistant dans le fond, c'est...
Il s'appelle Gérard.
L'histoire de Jojo, le petit Jojo qui est dans les jeunesses hitlériennes, c'est un petit nazi. Il est super content, il est super fier, il aime son pays et il aime le Führer.
Il aime un petit peu trop le Führer.
C'est à la mode.
Oui, c'est vrai. Oh, bah, en ami imaginaire à 10 ans, hein, y en a, ils avaient des Pokémon, il y en a d'autres, ils avaient Hitler.
C'est ça. Eh ben là, c'est la grande mode des Pokémon. Le seul problème, c'est qu'il trouve un Pokémon dans sa cave, enfin, dans ses combles, plus exactement.
Attrapez-les tous.
Ah là, j'aime bien ce genre d'ambiance. Voilà. C'est enregistré, c'est dans la boîte.
Tu peux les présenter maintenant.
Voilà.
On ne sait pas encore qui je suis, je peux encore partir.
C'est ça, vous pouvez encore partir, il est temps, j'ai encore présenté personne. Bon bref, oui, puisqu'il faut les attraper tous, ils trouvent une juive dans les combles. Aïe, 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 faut-il la dénoncer ou pas? C'est un cruel dilemme pour ce jeune enfant nazi.
C'est quand même le seul film où tu peux te le permettre de pitcher avec un ton aussi léger. Quand
même. On dirait vraiment un présentateur du JT sur la 2 en mode « Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des asperges. » Des nazis.
C'est quand même plus drôle les nazis, je trouve. Quoique des nazis avec des asperges maintenant. Allez, qui est cette voix féminine que vous ne connaissez pas d'habitude? Enfin, si, vous la connaissez, mais pas dans ce podcast-là. C'est Mélanie de la Manie du Cinéma. Salut.
Bah, bonjour, j'ai déjà fait 3 blagues sur les nazis, donc c'est déjà trop tard maintenant.
Et nous avons également Lucie. Salut Lucie.
Salut.
Que tu es illustratrice et storyboardeuse aussi également.
Tout à fait, et je fais aussi de l'animation pour la chaîne. C'est une autre histoire.
Merci d'être venue.
On parle de nazis aussi, des fois, d'ailleurs.
Donc, c'est une chaîne...
La drogue des nazis, qui est le premier épisode que vous avez deuxième. Fait, deuxième, qui est trop bien. Et aussi, donc, vous parlez de nazis avec des petits-enfants en mode « Ouais !»
C'est ça.
Mais on est super nombreux pour ce film en plus. Alors, on a Thierry, comme d'habitude.
Ouais, bah, j'ai pas le choix.
En même temps, il y a nazi, donc Thierry.
Arrête.
Ne réponds pas.
Je suis...
T'as le crâne rasé, je peux.
Tu me fais cette blague, mais non, mais... Il fait pas bon d'être chauve avec un ami comme Thomas. Hein,
non, non, il fait pas bon. Et les légionnaires, hein, ceux qui sont toujours derrière toi, tes SS à toi, hein, n'est-ce pas? Marwan de Doxiné.
Bonsoir.
Et notre ami Vincent de Movie Night.
Salut, ravi d'être de retour.
Voilà, alors bon, Jojo Rabbit, un film sensible, un film drôle, tiré d'un livre, La Nuit en Cage, de Christine Lenentz. Film 6 nominations aux Oscars, dont le meilleur film, dont le meilleur second rôle pour Scarlett Johansson. On en parlera, petit mot là-dessus. Et après, on va peut-être pas parler des décors, de la meilleure adaptation, tout ça, ça va, voilà. Hein,
c'est... Quand même, c'est important parce qu'il n'y a pas de sous-César, de sous-Oscar et de sous-métier, s'il vous plaît.
En effet, et on salue les costumes qui sont nommés également.
Bonne raison, c'est qu'ils sont extrêmement beaux.
C'est ouf. Surtout le costume en papier.
Oui, non, mais ça, c'est merveilleux.
Le film, et vous allez comprendre vraiment, le costume en papier, c'est le meilleur.
Oui.
Alors, mais justement, le costume en papier, mais alors, est-ce que un beau costume en papier, ça suffit à faire un bon film, dis donc?
Ouah, j'ai l'impression d'être au bac de philo, là, vraiment.
Non, sinon, t'as kiffé ou pas, en gros?
Merci. Alors vraiment, vous faites votre podcast en sortant du film après l'avoir vu pour la première fois. Nous, avec Lucie, on a triché parce que c'est la deuxième fois qu'on le voit.
En avant-première.
On a fait une avant-avant-première et là, on vient de faire une avant-première parce qu'on l'avait vu le 24 novembre au Forum des Images lors d'un festival autour du monde. Et la première fois, j'avais ri, pleuré. Et là, j'ai fait à peu près la même chose, ou dans l'autre sens, je ne sais plus. Mais en m'attendant,
On était préparés et du coup, on pouvait se faire des câlins de réconfort à chaque moment où on savait que ça allait arriver.
C'est ça, on se faisait des petits pas de patte, genre ça va aller. Ou alors, quand il y allait avoir une blague, on se disait « Oh, on va déjà rigoler en avance et les gens, ils ne vont pas comprendre dans la salle. » Mais vraiment, c'est mon film préféré de l'année 2019 et 2020. Au final, vu qu'on l'a vu dans les deux.
On ne sait pas encore, là, ça commence tout juste, donc j'attends un petit peu de voir pour me prononcer. Mais en tout cas, de la filmographie de Taika Waititi, pour l'instant, moi, j'étais restée sur Boy, qui est mon film préféré de lui. Mais clairement, là, Jojo, ça se met vraiment... on est sur un petit égalité, quoi.
Alors, un petit rappel, on en profite pour la filmo de Taika Waititi. Donc, il y a Boy, il y a aussi Thor Ragnarok, qui est peut-être un peu connu parce que ça a été produit par une petite maison indé il n'y a pas longtemps. Et aussi Vampire en toute intimité, What We Do in the Shadow, le seul film où je recommanderais de voir à la fois la VO et la VF.
VF, c'est vrai que je suis très anti-VF en général, je regarde tous mes films en VO et du coup j'avoue que j'y vais un petit peu à reculons.
Ouais, mais là c'est l'équipe de messages à caractère informatif qui s'en occupe.
Alexandre Astier, et c'est l'histoire d'une colloque de vampires, un mockumentary sur une colloque de vampires qui est censée se passer à Wellington, donc dans le sud, en Nouvelle-Zélande, voilà, le sud. Mais finalement en France ça se passe à Limoges. Et juste si, en disant le terme Limoges, ça ne vous donne pas envie de regarder le film, franchement, je ne sais pas ce que vous faites là.
Donc, votre film préféré de 2020-2019 et de Taika Waititi en général.
Ouais. Mais il faut regarder toute la filmographie de Taika Waititi en vrai, parce qu'elle est vraiment très intéressante et je pourrais en parler pendant des heures.
Tu l'as déjà fait pour moi.
Oui, je l'ai déjà fait.
On aimerait bien choper les derniers métros.
Ok, d'accord. Mais alors du coup, je recommanderais juste quand même de regarder Boy, qui est vraiment un film incroyable et où il y a une parenté très très claire avec Jojo Rabbit, où on comprend vraiment tout l'esprit de Taika Waititi et tout ce qu'il essaye de faire passer, ce qui est vraiment... la comédie dramatique, c'est vraiment son business et vu par les enfants. C'est vraiment ce côté où on se centre sur le regard de l'enfant, sur une situation qui est catastrophique, dramatique, et il arrive à en sortir un truc ultra poétique et drôle, et voilà, c'est la magie Waititi, quoi.
C'est joli, ça.
Alors, je me tourne vers les mâles, les vrais, les insensibles, les durs, les tatoués.
Voir insensible, carrément pas, hein, parce que le film véhicule extrêmement d'émotions. Moi, j'ai beaucoup plus été sensible au passage dramatique. Ce qui m'intéresse énormément dans la comédie, c'est justement le passage où on va te passer dans le drame, où on va te faire passer des messages beaucoup plus forts. Et enfin, même si la comédie fait passer des messages extrêmement forts quand même, et à quel point est-ce que ça va être réussi ou pas? Est-ce que ça va capoter à ce moment-là? Et malheureusement, ça peut souvent capoter. Chez Taika Waititi, clairement pas. Alors après, moi, c'est vrai que ce que je connais de lui, c'est justement donc What We Do in the Shadows et Thor Ragnarok. Et ce ne sont, entre grands guillemets, que des comédies, dans le sens où il y a beaucoup moins d'affaires dramatiques. Il y a quelques petits messages qui peuvent passer, mais en tout cas, moins que là, forcément. Et je trouve qu'il le réussit à merveille. Et c'est assez impressionnant, d'autant plus que c'est du regard d'un enfant. Mais je ne vais pas monopoliser le micro, donc je reviendrai après sur mes déblatérations, ce que j'en ai.
Oh, on est bien avancé, donc s'il y a des moments du film qui vous intéressent ou pas, je ne sais pas, je vois Marwan qui me regarde comme ça, qui a envie.
Marwan. T'es beau aujourd'hui, c'est pour ça. Non, plus sérieusement, non, c'est sérieux. Non, plus sérieusement, c'est j'ai beaucoup aimé, encore une fois, c'est le point de vue de l'enfant. la façon dont il a été traité. Il y a toujours une certaine volonté d'être dans une légèreté pour un sujet qui reste assez lourd. C'est encore une fois le regard, c'est ça, le regard de l'enfant à travers des événements très compliqués. Donc il y a toujours un rapport au réel qui est toujours éloigné, mais qui apparaît à un moment donné, et à un moment donné assez important. Donc c'est lorsqu'il comprend qu'Elsa est timide avant tout, et aussi par rapport à la... Ça faudra couper parce que c'est un spoiler pas très gentil. Ouais. Non, en fait, ce qui est intéressant, c'est aussi, oui, c'est ça, c'est qu'il joue beaucoup et joue merveilleusement bien avec, avec les genres. On passe vraiment très brutalement, mais de façon assez merveilleuse, dans le drame et dans la comédie. Ça a souligné, c'est vraiment merveilleusement bien réalisé et interprété.
Oui, effectivement, c'est
Vincent.
Salut. C'est très très bien.
Mais je cite parce qu'on passe d'une voix à l'autre et tout. On n'a pas l'image.
Salut. C'est vraiment très très bien interprété, à commencer par le gamin. Je pense que c'est vraiment le meilleur acteur du film. Et pourtant, le casting est costaud quand même. Et franchement, comme d'habitude avec Taika Waititi, il y a énormément d'idées visuelles et d'écriture qui sont hyper réjouissantes. C'est drôle, c'est triste et... constamment, ça fourmille d'idées en fait, et c'est hyper plaisant à voir, et moi je recommande.
Oui, je vais vous rejoindre sur le passage du rire aux larmes dans une même scène, sur une même séquence. Là, j'ai en tête une scène à table avec Scarlett Johansson et Jojo, où il y a une dispute à table et ça marque l'absence du père finalement. Elle va jouer le père pour le fils. Et j'ai pleuré, un coup j'ai ri sur la même scène, au même moment, il y a une bascule à chaque fois. J'ai été profondément touché, et du coup je comprends la nomination de Scarlett Johansson dans le film. Du coup, et oui, pareil, le petit, une direction incroyable, et une écriture, une drôlerie, des blagues, bon, sur les nazis on aime bien rigoler, mais quand même, des blagues avec Rebel Wilson qui fait pas des blagues de grosse.
J'ai une question pour ces dames, ou ces demoiselles, c'est comme vous voulez, vous qui l'avez vu une seconde fois, c'est savoir... quelle a été votre vision du film avec ce second regard ?
Pour le coup, effectivement, la première fois, il y avait la découverte, donc des rires encore plus aux éclats, j'ai envie de dire, parce qu'on est surpris, parce que c'est ça, c'est que les blagues arrivent vraiment genre, pam, là je te fais une boutade, vraiment mon petit gars, tu vas te pisser dessus. Vraiment, là c'est aux petits oignons, hein. Mais ce qui est cool, c'est que vraiment, on connaît l'histoire, on connaît la trame, on connaît le rythme, et surtout on peut commencer à faire attention un peu à ce qu'il y a autour. Et en fait, le truc, c'est que c'est un film qui est profondément intelligent. Moi, à la fin, il y avait une session question-réponse avec Taika Waititi qui était là. On était extrêmement émus, j'ai pleuré. Et en fait, je lui ai posé une question qui me tenait vachement à cœur. C'est savoir comment, en fait, la comédie peut être un outil pédagogique, surtout sur des histoires de guerre. Et en fait, sa réponse est vraiment super intéressante. Vous la verrez sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner.
Le lien en description.
on fait sa pub ou on la fait pas, hein.
Tu vois les pros là.
Et quand même. Et en fait, le truc, c'est que justement, je trouve que lui, il a très très bien géré le côté essayer de faire apprendre, en fait, parce qu'effectivement, on en parlait nous à la fin de la séance, que nous, en tant que public de ce genre de film, on a déjà été bercé par des films sur la Seconde Guerre mondiale. Ce film est sorti par un réalisateur néo-zélandais, il est sorti aux États-Unis. Ces publics-là n'ont pas l'habitude de ce genre de sujet. Et donc, je trouve que ça. Pas de cette manière-là, en tout cas. Et le truc, c'est que je trouve que ça peut être très, très intéressant pour eux d'avoir un nouvel outil pédagogique pour savoir justement qu'est-ce que c'est que les jeunesses hitlériennes, par exemple. Parce que ça, c'est un sujet, je crois, qui a été très, très, très peu abordé dans le cinéma américain. En tout cas, avec des recherches, que ça sent quand même que c'est assez recherché. Et dans le cinéma, j'imagine, néo-zélandais.
Je pense qu'il y a un côté où tu t'attaques pas aux enfants, en fait.
Ouais.
Tu t'attaques pas aux enfants. Et là, de dire qu'il y a des enfants qui étaient volontaires et vraiment enthousiastes à l'idée d'aller tuer des juifs, je pense que ça avait un côté où ça se vend pas aux producteurs, en fait. Un peu comme ils nous racontaient le problème qu'ils avaient beaucoup de mal à trouver, du coup, un financement pour ce film à cause du sujet. Et je pense que c'est pour ça qu'on a aussi peu, du coup, de films sur les jeunesses hitlériennes, quoi.
Oui, d'autant que les films américains, souvent, c'est du côté des soldats américains qui font la Seconde Guerre mondiale plutôt qu'autre chose, oui.
C'est que là, les jeunesses hitlériennes, c'était vraiment les scouts version nazi, en fait, avec des grenades et...
C'est vraiment, moi j'ai là je l'ai revu, vraiment en le revoyant une deuxième fois, c'est Moonrise Kingdom. De toute façon, il y a une esthétique super Wes Anderson dans le film, vraiment, si vous aimez le film de Wes Anderson, il y a vraiment de ça, mais c'est pas du plagiat, c'est de l'inspiration, ça se sent, et c'est Moonrise Kingdom, mais avec des blagues de nazis, donc c'est trop bien.
Mais en fait, rire de ce sujet, c'est vrai que tu parlais aussi de Rebel Wilson, et oui, en effet, utiliser une nana qui est affiliée à certains archétypes comiques pour en faire autre chose, c'est super intelligent et ça fait super plaisir, sachant que bon voilà, du coup elle fait une caricature énorme, mais elle se fait plaisir et tu vois justement qu'elle est impliquée parce qu'elle fait autre chose. Mais oui, enfin de toute façon, rire d'un sujet aussi grave n'en enlève pas la gravité, et c'est là que c'est intéressant. Moi, la dernière fois que j'avais autant ri sur ce genre de sujet, c'était dans La Vie est belle de Benigni, qui justement en plus peut te parler du regard enfant en bah, faites-lui comprendre que c'est un jeu. Là on a le petit Yorkie qui est l'ami du coup de Jojo, qui lui fait ça comme un jeu quoi. Quand il a perdu, il fait oh bon, on a perdu, c'est genre on a joué avec les copains, nous on était de ce côté-là, on était dans le mauvais camp. Et la façon dont il voit ça, sans philosophie, sans rien, en mode bah c'est un jeu, c'est un gosse, et Jojo lui prend ça au sérieux. Mais ce qui est intéressant, et moi j'y vois, alors personnellement je vois ça comme une énorme frayeur, je sais pas si elle est partagée par le réel, mais j'imagine que oui, parce que quand tu mets ça en scène, t'en as peur aussi. Moi ça me fait énormément peur, les enfants qui véhiculent des idéologies, parce qu'un enfant c'est naïf, un enfant c'est innocent, et bah, les parents de toute façon utilisent toujours l'innocence de leurs enfants pour leur faire croire en leur connerie, que ce soit...
Là en l'occurrence c'est pas les parents, c'est la société en général. Et là le rôle de Scarlett Johansson, son problème c'est qu'elle essaye d'éduquer son enfant dans ce climat là.
Tout à fait. Mais en tout cas, voilà, là, si jamais, par exemple, supposons que, je sais pas, Scarlett Johansson aurait été une Leni Riefenstahl bis, tu vois, tu te dis, bah, elle l'aurait éduquée comme telle. Et avec encore plus d'idéologie, mais le gamin là quand même, parce que bah, la société veut ça. Mais en tout cas, moi j'y vois en tout cas ce côté-là, c'est ce que je te disais, la question que je lui ai posée. Moi, quand je vois par exemple des manifs où t'as les gens qui portent leurs enfants en étendard, et c'est les enfants qui scandent les slogans pour les caméras, pour ci, pour ça, bah, les enfants ils comprennent rien. On leur dit de scander un truc et ils sont jusqu'au boutiste. T'as ce passage où, suite à une révélation qu'on ne va pas donner, n'est-ce pas Marwan, de Doxiné, Jojo s'apprête à. Et il va jusqu'au bout. Il veut aller jusqu'au bout.
C'est déjà.
Non mais. Bon, d'accord.
Je sais pas. À un moment, il perd son couteau. Bon, très bien.
Il y a un côté jusqu'au boutiste, enfin, en tout cas, dans sa démarche où il veut aller à des moments jusqu'à des extrêmes, il y va pas. Où on sent que bah, le gamin a tellement pas de repères que c'est le seul repère qu'il a. Et parce qu'on lui dit de toute façon, c'est bien, t'es du côté des gentils, un gamin va croire ce que tu lui dis. Et j'y vois aussi cette frayeur-là. Montrer ça dans le regard de gamin, c'est en train de dire aussi. Préservez vos gamins, faites attention à ce que vous leur dites, et surtout n'oubliez pas qu'ils ne sont pas forcément en mesure de comprendre tout ce qu'il y a autour d'eux. Donc bah, soit on leur dit tout, c'est compliqué, soit on leur dit rien et on les préserve, et tant pis, ils apprendront plus tard, c'est peut-être mieux.
Oui, d'ailleurs il y a une série de blagues sur la propagande nazie anti-juif, où dès qu'on dit une connerie sur les juifs, ah, c'est tellement vrai, genre ils ont des écailles, ils sentent le chou de Bruxelles, ils ont des cornes sous les cheveux, ils portent une queue. Mais où est ta corne? Elle est sous les cheveux. Ah d'accord.
C'est le regard extrêmement flippant de Steven Merchant. Hein, je veux dire, lui, il arrive, il te dit « je vais te bouffer dans 10 minutes, tu le crois hein, ?»
C'est pas faux.
Allez le voir, hein, vraiment, et regardez toute la filmographie de Taika Waititi. moi, comme j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne, et je vais le faire aussi là, c'est je vous conseiller des films à regarder en complément de celui-ci, parce que c'est ça qui est intéressant. Bah, celui que je vous conseille le plus, moi, qui me vient à l'esprit, effectivement, t'as dit La vie est belle, hein. C'est une très bonne idée, effectivement, de Benigni. Sinon, il y a To Be or Not To Be de Ernst Lubitsch, qui est sur une troupe de théâtre où ils se font passer pour des nazis pour essayer de s'en sortir. Super film, très très drôle également. Et il y a ce côté encore un peu avec un Hitler un peu marrant, et même là c'est des officiellement, mais c'est vraiment très très drôle et très intéressant. Et juste, si vous avez aimé ce Hitler-là, je vous conseille. Oui. Parce qu'il y en a plein. C'est justement, moi j'ai vu vraiment une grosse corrélation avec le film Les Producteurs, alors de Mel Brooks, mais aussi de Suzanne Stroman, plutôt celui de Suzanne Stroman. Mais en tout cas, là Taika nous a dit que Mel Brooks lui avait dit qu'il avait adoré son film, et vu que Mel Brooks c'est l'amour de ma vie, bah, je suis extrêmement heureuse, et donc je vous conseille de voir un film de Mel Brooks, et c'est Les Producteurs.
Mel Brooks, puisque tu écoutes ce podcast, donc regarde le lien en description, La Manie du Cinéma, on est ravis de te présenter cette personne.
Je l'aime d'un amour. D'autres rocos? Le dictateur de Chaplin, oui, c'était facile, très bien.
Facile, mais bah, tu sais, il y a des générations futures qui ne connaissent pas forcément, et c'est bien de rappeler que ça existe.
Donc on vous le conseille aussi. Merci à tous d'être venus pour ce film. Jojo Rabbit, on le rappelle, on a surkiffé, voilà.
Clairement. 5 étoiles sur TripAdvisor. Ah non, c'est pas des étoiles, c'est des ronds, pardon.
5 voilà. Ronds.
5 ronds sur TripAdvisor. Moi, j'avoue.
Par contre, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Voilà.
Oh, la transition en or. Voilà.
J'ai fait exprès. Bien joué.
Ouais, je m'inspire des meilleurs, que voulez-vous. Merci. Alors, Mélanie, donc, tu nous l'as dit, on peut te retrouver sur ta chaîne YouTube, La Manie du Cinéma.
Absolument. Partout, sur tous les réseaux, vous tapez La Manie du Cinéma, je suis dessus, forcément. Même TikTok, je viens de m'y inscrire, vraiment. Il n'y a rien encore dessus, mais promis, je vais y mettre des photos de mon chien à un moment. Voilà. J'adore la thune, vraiment. J'adore essayer de gagner de la thune, qu'importe la manière. La thunasse. Voilà, la thunasse.
Alors, par contre, c'est pas payé là ce podcast, je suis désolé. Au revoir. Et Lucie, où peut-on te retrouver?
Alors, moi, on peut me retrouver sous le pseudo Limlu, L-E-A-M-L-U. Je sais, c'est pas très logique.
Léa L-Mu.
Non,
Léa, parce que moi j'ai toujours dit Léa L. Mu.
M. Lu. Ouais, Léa M. Lu.
Voilà. Donc c'est super simple. Hein. Très bonne idée marketing. Et donc je suis sur Instagram et aussi on peut me retrouver donc, où je fais les dessins animés de la chaîne de C'est une autre histoire avec Manon Bril. Et sinon je suis aussi dans votre télé des fois pour les enfants. Mais vous le savez pas.
T'attends, ils sont partout. Bon, tant qu'on y est, allez, Vincent. Où peut-on te retrouver Movie Night, vite fait, sur les réseaux?
Ben, on peut me retrouver sur Twitter et Instagram et ben voilà avec mon blog Movie Nights et mon compte perso.
.com.
Rappelez-vous que ces deux merveilleux jeunes hommes écrivent quand même pour Désolé J'ai Ciné, qui est quand même un magazine bien plus intéressant que tous les blogs qu'ils peuvent écrire.
Oh, le couloir promo, on finit avec Marwan.
Alors moi je suis dans votre cœur et retrouvez-moi dans votre cœur et voilà.
Oh, le lover quoi.
Vous inquiétez pas.
Ce travail commun de traduction pour une sortie mondiale simultanée est une première. Vous pouvez vous estimer chanceux après vous. Nous avons pris toutes les précautions du monde. Isoler les traducteurs, confisquer les portables, couper Internet.
Ce n'est pas juste un thriller. C'est fondamental, le texte.
Les 10 premières pages de Dédalus, tome 3, ne t'appartiennent plus. Si tu ne verses pas la somme d'ici 24 heures, 100 pages supplémentaires apparaîtront demain sur la toile.
Si c'est très très simple, je peux perdre 2-3 autres, mais il faut que ce soit simple.
Hein. Hola en espagnol et... voilà.
Hola y bienvenido, c'est une certaine macho. Et là,
Hace somos que le, a quien les gustan caliente. Voilà.
C'est ouais. Un peu
à caliente. Bref. Nouvelle journée, nouveau film. Nous sommes le mercredi matin, nous sortons de la séance de 9h. Nos invités ne sont plus les mêmes. Nouvelle voix féminine, on renouvelle le casting. Avec nous, ben, Yassa, l'habituel qui revient.
Salut.
Pour une fois, c'est pas 22h, je suis content.
Pour une fois, c'est pas pour Bad Boy surtout, hein. Avoue-le.
Et un retour, une voix que vous connaissez aussi. Wonder Laura de Fucking Cinéphile. Hello, Laura.
Bonjour.
Ça va?
Bah oui, ça va bien, oui.
Bien réveillé de bon matin.
Comme un mercredi le matin où on me force à aller voir un film à 9h. Mais ça va sinon.
Non, on va croire qu'on force. Oh. Qu'est-on allé voir à 9h? Un film français, mais à la fois international un peu. On est allé voir Les Traducteurs de Régis Roinsart. Régis Roinsart qui avait déjà réalisé Populaire avec Romain Duris, mais c'était il y a 8 ans déjà. Ça commence à faire un peu. Les Traducteurs avec un beau casting, Lambert Wilson, Olga Kurylenko, Frédéric Chaud, Sarah Giraudeau. Voici pour les acteurs français qu'on connaît. Voilà. Il y avait aussi Riccardo Scarmaccio, qu'on avait vu dans le film sur Berlusconi, Dioro aussi. Le pitch du film, quel est-il? Le spoil, c'est mal. Le spoil, c'est très très mal. Ah oui, c'est le mal. Et il faut les fuites sur Internet, c'est vraiment l'horreur. Et c'est tellement l'horreur qu'un éditeur va enfermer 9 traducteurs dans un bunker pour qu'ils traduisent le méga best-seller tant attendu, le 3e tome d'une trilogie, vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Énorme enjeu économique et donc il ne faut absolument pas spoiler. Petit souci, c'est que ben, les premières pages commencent à fuiter sur Internet. Qui est la top? Qui balance? La traque commence. Ce n'est pas un meurtre, hein. C'est pire. C'est du pognon. Pardon, c'est une œuvre, pardon, excusez-moi. Un whodunite, finalement, un cluedo dans un bunker. C'est l'ambition en tout cas. Après, à couteau tiré et avant, mort sur le Nil. Alors du coup, est-ce que c'est un best-seller?
C'est marrant que tu dises, qu'on utilise le terme whodunite pour ça, parce que oui, en soi, ça prend l'apparence d'un whodunite. Lambert Wilson, donc l'éditeur, reçoit un mail qui lui dit qu'en gros les premières pages ont fuité sur Internet et en gros si tu donnes pas de la thune, ben on va en faire fuiter d'autres. Sauf que normalement personne n'a de téléphone, il sait pas qui a fait ça. À partir de ce moment-là, les gens vont soupçonner entre eux. Oui, concrètement, ça prend la forme d'un whodunite. Après, un peu à la manière d'un couteau tiré, ça te donne des cartes assez rapidement et ça te trimballe de révélation en révélation. Donc au final, le côté whodunite où tu joues toi-même à essayer de faire ton cluedo, il est très vite désamorcé. Ce qui peut-être est un peu le défaut du film. Contrairement à Populaire, que j'avais trouvé bien sympathique, là, mais très clinquant, en mode très tape à l'œil, le mec aime bien faire de la grosse mise en scène. Là, c'est ce côté-là, sauf que dans un truc comme un whodunite, c'est un peu le problème. Dans un whodunite, le gros problème, moi, je trouve, c'est quand tu commences à expliquer ton intrigue par des flashbacks, je trouve que c'est pas un défaut malhonnête, mais je trouve que c'est un aveu de faiblesse en fait. Le côté tu ne sais pas comment raconter une histoire juste par le dialogue, par les soupçons, par des gens qui peuvent te raconter des faux semblants, donc tu les montres. Et donc tu commences à faire des flashbacks, et à partir de là, je trouve que c'est un peu un aveu de faiblesse, et c'est à partir de là que du coup le film te dit je vais tout te révéler, t'inquiète pas, ça va très bien se passer, et maintenant laisse-toi guider quoi. C'est un peu le souci. Moi j'aurais bien aimé qu'il me trimballe et qu'à la fin il m'éclate.
Lève la main, je vois Yassa qui lève la main.
Alors, je suis pas d'accord avec toi sur le fait qu'on donne des cartes assez vite, parce que justement, c'était un petit peu nébuleux. C'est-à-dire que pendant une bonne moitié du film, je racontais un petit peu mes théories à Thomas, c'est-à-dire que j'imaginais des trucs un petit peu à droite à gauche, des trucs un peu farfelus, etc. Et j'avais pas les clés. Mais le truc, c'est que même quand il commence à donner les clés, en fait, je pense que c'est desservi par le rythme des dialogues qui en fait les révélations tombent un petit peu à plat, c'est-à-dire qu'on va avoir des révélations qui vont venir de plusieurs personnages et on commence à avoir des choses qui se révèlent au fur et à mesure, etc. Et on sent bien qu'il y a une impression de ménager le suspense, tu vois, sauf qu'en fait les dialogues que les personnages se renvoient sont un petit peu mous pour moi. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de d'investissement
sur les dialogues. T'en cognais, c'est un casting international. Et on sent que le français, la plupart des acteurs, c'est pas leur langue maternelle, et c'est assez difficile pour eux.
Mais c'est pas du tout de je critique pas du tout la manière de prononcer ou la tonalité, etc.
Ce que je veux dire, c'est pas pour reprocher aux acteurs, parce que jouer dans une autre langue, c'est déjà balèze en soi. Ce que je veux dire, c'est que des dialogues un peu faibles plus un jeu difficile, c'est vrai que c'est difficile d'emporter le spectateur.
C'est un petit peu ça. Alors par contre, moi c'est pas à la fin du film que j'ai été choquée, hein. Je sais pas si vous avez été choquée, mais enfin c'est pas à la fin. Moi c'est au début du film, je donne juste ça, je pense qu'on pourra. Le film commence avec une librairie qui brûle, et moi, je suis désolée, mais ça m'a fait très très mal. De voir des livres.
Le feu s'estompe, repart en arrière, ça va.
Oh, ça va, oui. Mais ça n'empêche que moi, ça me fait mal. Moi, ça me fait mal.
Moi, ça m'a rappelé les autodafés de Jojo Rabbit. J'étais content.
Et puis, pour un film sur grand écran comme ça, où tu sens que c'est le seul truc où ils ont eu un petit budget, j'avais l'impression de voir des effets spéciaux dignes d'un épisode d'Inspecteur Barnaby, tu vois. J'étais dans un Woodonide sur France 3, moi, le soir, le dimanche, j'étais content.
Ouais, il y a quand même un bunker, quand même. Il n'y a pas de bunker dans France 3.
Et pas de respecteur Barnaby, hein, ça c'est sûr.
Laura, comment as-tu trouvé ce film ?
Sympathique. Je pense que c'est le mot qui le décrit le mieux. Après, le truc avec les films à énigmes, c'est comment amorcer la fin. C'est le truc le plus compliqué, en fait. Je pense que déjà, dès le départ, le scénario ne savait pas comment le terminer. Et ça se sent dans la mise en scène, parce que parfois ils essayent d'amorcer des petites solutions, sauf qu'après, en fait, on part sur un flashback, donc c'est totalement oublié, pour après revenir sur un autre truc, pour après au final avoir la vraie fin. Et du coup, à ce moment-là, on sent une petite déception. Et c'est ça le problème, c'est que en fait, c'est ne pas savoir comment finir. Et le film tombe dans cet aspect-là. C'est juste qu'en fait, il y a deux solutions dans les films à énigmes. C'est soit on laisse le suspense jusqu'au bout, donc ça veut dire que les dix dernières minutes, c'est vraiment que pour la révélation. Ou sinon, on twiste un peu et on fait des twists pendant au moins le quart du film. Et en fait, là, j'ai l'impression que le film n'a pas voulu choisir entre ces deux. Et en fait, il fait les deux. Et je pense que c'est ça qui ne fonctionne pas.
Oui, il a voulu partir un peu. Alors, dans la promo, l'auteur disait, le réal qui a aussi coécrit le scénario, disait, bon, au début, c'est un whodunit, après, c'est un et après, c'est... Donc, ça a le même défaut qu'à couteau tiré, qui, justement, n'est pas resté sur le même style pendant tout le film et se perd un peu derrière. Quoi.
En disant ça, tu révèles pas mal de choses. Après, si c'était dans la promo, bon...
C'était dans la promo.
Mais en fait, comme ça, je rebondis sur ce que tu disais. Il y a ça, moi, quand je disais qu'en fait, on a donné les cartes rapidement, c'était plus au-delà des révélations, parce que les révélations, à part certaines, je les ai pas vues venir. Mais par contre, je savais qu'il allait en avoir et je savais qu'il allait avoir des twists. Et c'est ça le gros souci, c'est qu'à partir du moment où les premières révélations, les premiers twists apparaissent, je fais, ok, ça va être désamorcé un moment par un autre twist. Ah, ok, celui-là, c'est pas le twist final, il vient d'avoir un autre. Alors, sans savoir ce que ça allait être, je savais qu'il allait en avoir. Donc, je savais que ça, bon, ça, je vais pas y croire parce que ça va être désamorcé. C'est juste ça, c'est que la structure était un peu trop flagrante et qu'en effet ça fait du sensationnalisme. Et d'ailleurs c'est ce que tu disais, le film sait tellement pas comment se terminer qu'une fois qu'il t'a dévoilé ses cartes en mode ah, voilà la vraie vie, enfin voilà la vraie vérité, allez c'est bon la fin.
C'est un peu abrupt. Moi, je m'étais amusé, au lieu d'essayer de trouver des théories, à me faire une réalité alternative, parce qu'au début, il y a le traducteur grec qui dit « Putain, on nous enterre pour traduire une merde, on aura tout vu. » Et j'étais là en mode « Tu vois, c'est ce genre de film où tu dois traduire le nouveau Marc Lévy, on t'enferme dans un truc, et en fait, le but, c'est que personne ne doit fuiter le fait que c'est très mauvais. » Et du coup, il se suicide au fur et à mesure en lisant les pages, « Non, mais non, c'est trop nul, je peux pas traduire ça et tout. » Ça aurait été génial.
Ça aurait été bien. Ça aurait été super. Oui, parce qu'on a la présentation de personnages, donc il y a un traducteur grec qui trouve que c'est vraiment un chier. Il y a Olga Kurylenko qui est ultra fan, qui est tellement fan qu'elle se grime et elle fait tout comme l'héroïne des bouquins. Donc il y a plein de profils comme ça. Et alors, moi, ce qui m'a plu, c'est qu'il y a un petit développement de personnages. Alors après, on l'oublie, hein, à la moitié du film, la découverte sur le background des personnages, on l'oublie assez vite. Mais il y a du portrait. Moi, ce que j'aime bien dans les Cluedo comme ça, c'est on te présente les personnages, on te montre au moins le mobile de chacun ou leur trait de caractère. Il y a un attachement. Voilà. Donc on s'attache aux personnages. Il y a même, bon, après c'est presque caricatural parce qu'on met des traducteurs, donc c'est un casting international avec le petit drapeau du pays qu'ils font. Donc on a droit à une scène où ils se balancent les clichés à la gueule, où ils sont tous ensemble. Alors avec Frédéric Shaw qui avait fait Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'on a encore fait à Agatha Christie?
Oui, surtout quand tu te pètes un gamin qui lit un certain livre, je ne dirais pas lequel, histoire au cas où t'as pas compris.
Voilà, voilà. Mais ça va, les clichés, on a juste la petite scène qui était comme ça, juste manière. Ça va, c'est pas le pire de tout. Tu sais, moi, je suis juste un peu déçu, effectivement, qu'il manque Hercule Poirot, en fait. Il manque un enquêteur, il manque quelqu'un qui mène l'enquête, et quelqu'un qui cherche. Ça aurait pu être Lambert Wilson, qui a 30 secondes ce rôle-là, mais qui l'oublie tout aussitôt.
Lambert Wilson a déjà du mal à jouer l'éditeur ultra sadique, alors non, il fallait pas lui donner un second rôle. Hein.
Moi, j'aime bien Lambert Wilson.
Il se met juste à gueuler tout le temps quand il est pas content, histoire de dire « Regardez comme je suis méchant !» Ouais, Lambert Wilson, quoi.
Mais ça, c'est un problème d'écriture, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est que le film sait pas trop où il va, et du coup, bah, les acteurs savent pas trop non plus.
Mais en fait, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez là sur le personnage de Lambert Wilson, de l'éditeur. En fait, je trouve que malgré la présentation des traducteurs, des personnages qui vont traduire, je trouve que le huis clos manque d'envergure. C'est-à-dire qu'on est plongé dans le quotidien des personnages, mais on est retiré beaucoup trop vite, en fait. C'est-à-dire que c'est paradoxal parce qu'à la fois, je trouve que l'intrigue, au début, avance lentement, mais en même temps, je trouve qu'on passe pas assez de temps avec le personnage. Ok, on nous les montre dans une situation qui est en dehors de leur quotidien, et en même temps on les montre aussi interagir un petit peu, mais je pense pas suffisamment, parce qu'en fait du coup on n'arrive pas à s'investir, ce qui peut-être permet de se focaliser sur deux ou trois personnages qui vont ensuite aider au déroulement de l'intrigue, tu vois. Mais en fait, quand il commence à se passer quand des choses commencent à arriver dans le bunker, etc., je me suis sentie un petit peu détachée, quoi. C'est comme si que je lisais une histoire. Il y a des romans, moi, que je lis, des thrillers, etc. Je ne peux pas les lâcher. C'est-à-dire que je vais jusqu'à 4h, 5h du matin et je dois finir le livre tellement je suis dedans. Là, en fait, je me disais, je descends de mon arrêt. Du coup, je mets le marque-page et puis je continuerai la suite tout à l'heure. C'est un petit peu le ressenti que j'ai eu. Voilà.
En fait, le problème de ce que tu dénonces, c'est parce qu'en fait, au lieu de faire vraiment un huis clos dans le bunker, en plus, ils sont vraiment dans un bunker d'un russe milliardaire, où du coup, ils sont quand même enfermés, mais ils sont entourés de luxe. Donc ça pouvait être intéressant, en fait, de se sentir enfermé, mais d'une façon un peu riche. Sauf que vu que c'est désamorcé, parce qu'il y a des flashbacks, et du coup, en fait, on passe le bunker où ce qui se passe, c'est quand même assez tendu. Puis après, il y a des flashbacks, donc on sort, on les voit un peu partout avant qu'ils sont rentrés dans le bunker, à Paris, à Londres, etc. Sauf que bah, du coup, après, quand on revient, eh ben, on a perdu la tension qui nous avait installée avant. Et du coup, on se dit, ah ben voilà, bah, maintenant je me sens extérieur à l'histoire.
Sans parler que des fois, ils remontent, on ne sait pas trop pourquoi. Donc, ils cassent la règle sur laquelle est fondé le film. Bref, oui, c'est
aussi la chronologie de l'histoire est un petit peu floue, c'est-à-dire qu'on va avoir des fast forward, ils vont revenir derrière, on sait pas trop exactement, des fois ils te marquent la date, des fois on sait pas trop où on est, tu vois. Et en fait, je pense que ça aurait été une bonne idée de faire la présentation des traducteurs, puis ils arrivent au bunker, et puis ensuite en fait on ne sort plus de là jusqu'à la fin, quoi. C'est-à-dire que même s'ils le racontent, s'ils font des flashbacks, mais ils font des flashbacks en le racontant en direct, quoi.
quoi. C'est-à-dire, ils le racontent entre eux, enfin, et à nous, quoi, sans nous montrer les images. Je pense que ça aurait aidé à faire monter la tension jusqu'au bout. Et on aurait été un petit peu, enfin, moi, pour ma part, j'aurais été investie un peu plus que ça, quoi. Mais c'était pas mal quand même, hein. Je donne l'impression de cracher dessus, mais c'était pas mal. Moi, j'ai bien aimé.
Sur le papier, c'est quand même vachement bien. Enfin, la trame, les twists, même s'ils passent pas bien à l'écran, la complexité de l'intrigue, c'est quand même vachement bien. Dommage.
Oui, non, là, c'est vrai qu'on a l'air de cracher dessus et tout, mais après, comme je reste sur mon mot du début, ça reste sympathique, en fait. Et après, on passe à un excellent moment. C'est juste que si on veut voir vraiment un film à énigmes tendues avec une atmosphère sombre, c'est pas le genre de film qu'il vous faut.
On sort assez facilement du bunker.
Juste une question que je me pose, je me dis, est-ce que, par exemple, c'est un truc qui aurait pu arriver, je sais pas moi, pour la publication de Millennium ou un truc comme ça ?
C'est inspiré d'une histoire vraie.
D'accord.
Puisque, puisque Régis Roinsart, qui lisait des articles, quand il faisait la tournée du film pour Populaire, il lisait des articles sur Dan Brown pour la traduction d'Inferno, qui avait enfermé, non pas 9 traducteurs comme dans le film, mais 12 traducteurs qui les avaient enfermés dans un bunker en Italie.
D'accord.
Voilà. Alors, il a lu des articles dessus.
Inferno, quoi. Bon bouquin de merde, quoi.
C'est ce qui l'a inspiré pour ce scénario.
C'est de la merde. Pardon.
Qu'est-ce qu'ils avaient aussi enfermé Ron Howard dedans pour lui donner toutes les contraintes pour réaliser le film assez nul aussi avec Tom Hanks.
Après, tu sais, c'est toutes les histoires qu'on a après sur les scénarios Marvel et tout. C'est enfermé dans un bunker. Les acteurs sont obligés d'y aller, de lire le scénar avant et de pas prendre de copie ni rien. Tu vois. Ce qui pose des problèmes pour les acteurs dyslexiques. Mais bon, ça après, c'était autre chose.
Ça arrive.
Bon, bref.
Qui reste pour le prochain film ?
Non,
pas toi, Yassa.
Merci, Yassa.
Merci, Thomas.
Quant à Laura, tu restes avec nous pour le prochain film. Après, je veux pas spoiler la fin, mais bon, on met 8 traducteurs européens et un chinois dans un bunker. Qui c'est qui a fait le coup ? Ben, c'est les Cubains.
Nosotros hemos armado una organización, un kamikaze. Necesitamos pilotos como tú.
En ese caso es importante que usted sepa la verdad.
Que las organizaciones anticatristas quieren que el mundo piense que Cuba es peligroso. La única forma de detenerlos es infiltrar las organizaciones terroristas en Florida. Y tenemos hombres en el terreno.
Je vais pas être tendre avec ce film. Hein. Là, chaud, là.
On a le droit, mais on a le droit. Quand on n'aime pas un film, on a le droit de.
Genre, hein, je préfère être posé et tout, mais alors là.
D'être un peu méchant de temps en temps. T'inquiète pas. Tu vois, on parlait du fait que t'étais timide tout à l'heure. Maintenant, tu vois, grâce à nous, tu vas rentrer à la maison, tu vas hurler. Tu vois,
je vais pas hurler, mais c'est. Tu peux pas sortir un film comme ça. Je sais pas, tu.
Dire des gros mots.
Bah, faut
Après, tu ramènes quand même des bons acteurs et tu leur fais jouer de la merde. Enfin, je veux dire, Ana de Armas, le rôle qu'elle a, c'est de la grosse merde. Et tu l'as fait venir pour ça. Penélope Cruz, pareil. Tu finances.
On va en parler. On va
tu
en
finances
parler.
Son film.
Bien. Bon, Yassa n'est pas là. Elle a pris un avion pour Cuba, je crois. Mais ce n'est pas grave, puisque nous sommes toujours là avec Thierry.
Ça y est, on a trouvé qui était le traître. C'était pas les Cubains, c'est Olivia Sayas.
Non. C'est le commandant, je sais plus trop quoi, dans Star Wars.
C'est moi le traître.
Non. C'est le commandant Hux dans Star Wars.
Le commandant câlin.
Le général Hux dans Star Wars. Oui, oui. Et Laura toujours avec nous.
Eh oui, toujours là.
Allez, cette fois-ci, film d'espionnage. Film d'espionnage, on va suivre le réseau d'espions cubains, c'est assez inhabituel, d'un Cuban Network d'Olivia Sayas. Un film avec Penélope Cruz, Edgar Ramirez, Gael Garcia Bernal, Ana de Armas. Et ça va nous raconter dans les années 90 l'infiltration par les espions cubains d'une fédération d'un groupuscule de terroristes anticastristes basés à Miami. J'essaie de résumer le plus simplement possible. C'est tiré d'un livre de Fernando Moraes, qui était journaliste et homme politique, The Last Soldiers of the Cold War, qui résume un peu cette histoire d'espionnage, puisqu'en fait, les anticastristes basés à Miami faisaient des opérations avec des avions, ils allaient monter des attentats dans les hôtels cubains pour faire chuter le tourisme et faire baisser l'économie pour déstabiliser le régime castriste. Ils se finançaient aussi en trafiquant de la drogue au passage, hein, parce que bon, faut bien vivre, hein, les mitraillettes et les explosifs, ça coûte cher, et le kérosène dans l'avion aussi. Et bah, les Cubains, pour contrer ça, faisaient passer des Cubains pour des traîtres, des mecs qui s'échappaient de l'île pour aller faire les opposants à Miami. Vous comprenez bien que c'est une histoire assez touffue, que ça peut y avoir des ramifications, et les films d'espionnage, c'est pas toujours très simple. C'est un film qui était passé à Venise et qui a été remonté depuis, et je vous sens un peu perdu après avoir vu ce film.
Pas perdu, on s'est fait chier surtout. Assayas, c'est quelqu'un qui, de toute façon, n'a pas non plus le meilleur des rythmes, donc il faut qu'il ait une histoire qui soit très cohérente pour t'accrocher. Moi, j'avais beaucoup aimé Sils Maria, mais c'est vrai que c'est un film qui peut être un petit peu aussi, pareil, lent, difficile à regarder. Personnel Chopper, je m'étais totalement ennuyé, mais l'histoire se tenait. Après, son truc sur les gens qui se regardent en parlant de bouquins, là, ça, c'était absolument affreux. On avait même Hera n'avait pas aimé, je crois que c'était Double Vie. Et on avait détesté tous les deux. Mais alors ça... Mais qu'est-ce que... Oh là 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 là, mais ça raconte strictement rien. Ça te fait croire que ça raconte des trucs, mais ça raconte rien en fait. C'est des gens qui se regardent parler, tu as l'impression qu'ils savent même pas de quoi ils parlent, puisque toutes les scènes sont totalement décousues. Les personnages s'enchaînent, se parlent les uns les autres, vont parler de trucs différents dans des scènes qui n'ont aucun sens. Le montage est chaotique, ça a été remonté, mais à quoi ressemblait le montage précédent? Ah, monsieur, qu'est-ce qu'on s'emmerde?
Laura?
Bah, je rejoins un peu son avis. Comment expliquer? On parle quand même d'un film qui est inspiré de faits réels. Donc après, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais en tout cas, toute cette histoire d'espionnage est vraie. On parle quand même d'une chose politique qui s'est passée il n'y a pas si longtemps que ça. On parle quand même des années 90. On parle d'une histoire qui, comme tu le dis, est assez dense, normalement, qui doit être traité avec parsimonie, qui doit être traité avec des pincettes et avec un réel point de vue, parce que sinon pourquoi faire ce genre de film? Et en fait, on se retrouve avec un film sans point de vue, avec un montage totalement chaotique. Il y a des moments où on ne sait même plus qui sont les personnages, où ils sont, dans quel camp ils sont, qu'est-ce qu'ils font, qui sont-ils, parce qu'il y en a au plein milieu du film, ils arrivent, on ne sait pas qui ils sont, et puis après ils repartent et on ne les revoit plus jamais. Donc pourquoi ils étaient là à ce moment-là. Et après, avec des grands acteurs qui au final ne font pas grand-chose, et ça ne raconte rien, en fait, il n'y a pas de point de vue. Donc pourquoi raconter une histoire qui est quand même assez complexe, sans point de vue, avec un montage bidon. Enfin, je suis désolée pour le monteur, mais voilà.
Il y a des scènes, on a l'impression qu'elles ont été rajoutées pour expliquer, parce qu'ils croyaient qu'il n'était pas assez clair, mais en fait, ça vient rajouter une couche pour rien du tout. C'est-à-dire qu'en fait, au début, on va suivre le pilote qui est Edgar Ramirez, qui en fait quitte un beau matin, il prend son avion, il se casse, il va aux États-Unis. Voilà, en gros... En gros, c'est ça. Donc, il lâche sa femme, ses gosses, tout ça. Donc, on ne sait pas trop. Et donc, il va intégrer le réseau anticastriste. Et bon, et puis il va rencontrer d'autres mecs qui font pareil, tout ça. Bon, très bien. Donc, il fait son train. Il y a d'autres potes qui viennent et tout. Ils s'installent et ils vont balancer des tracts, tout ça. On le voit dans l'organisation. Et puis, pouf, comme ça, au milieu de rien, il y a le pitch du film qui arrive. On est au bout de trois quarts d'heure de film. Ah, au fait, alors, il y a des espions et puis il y a des anti-espions. Et en fait, et puis c'est avec une voix off et tout qui est d'expliquer tout le truc. Et puis tu dis, mais d'où ça sort ça? En plus, c'est pas la même forme, c'est pas le même ton, c'est pas le même modèle. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais qu'est-ce que ça fout là?
Tu sens les exigences de la prod, tu sais, ils ont dû mater, c'est le premier jeu, ils ont fait, mais on comprend rien à ton truc, donc tu rajoutes ça et t'enlèves ça aussi. Donc du coup, il manque des scènes et il y en a en trop aussi. Mais c'est vrai que oui, ça sort de nulle part.
Ça sort de nulle part, tu dis, mais ça, tu le mettez au début, tout simplement. Comme ça, on se pose la question, est-ce que le mec est un vrai infiltré ou pas, je sais pas. Ou alors tu nous l'expliques plus finement, parce que juste après, on voit un mec qui du coup est lui pour le coup infiltré, et en fait, là où il y aurait pu y avoir un suspense, se demander si tel ou tel est un agent double ou ce genre de truc, parce que bon, il y a des histoires de drogue et donc le FBI ça l'intéresse. Donc il y a plusieurs entités, il y a plusieurs espionnages, il y a tout pour faire une bonne histoire d'espionnage, mais le montage et les explications viennent tout s'aborder tout ce qu'il pourrait y avoir de tension, de suspense comme dans ce genre d'histoire est balancé à la poubelle. Tu disais la sous-exploitation des acteurs, surtout les actrices. Parce qu'on a quand même Penélope Cruz et Ana de Armas, dans le film, elles sont reléguées à un rôle tertiaire. Quoi.
Non, mais même pas. Attends, mais Ana de Armas, vu le rôle qu'elle joue, elle n'a pas joué dans le film. Hein. Ils ont pris des plans de Mourir peut attendre et ils les ont calés aléatoirement.
Oui, c'est vrai qu'il y a une scène de sexe. C'était peut-être qu'on a remplacé Daniel Craig par ordinateur, peut-être.
Scène, elle séduit peut-être un mec et peut-être un espion, après elle couche avec. Il y a juste ça. Je veux dire, c'est des plans de Mourir peut attendre. Hein. Et ce sera sûrement plus fourni d'ailleurs dans le film, enfin, dans l'autre. Non. Elle aura plus de scènes dans l'autre film, c'est ça que je veux dire. Pas celle que tu imagines, Thomas. Ne fais pas ce petit sourire coquin maintenant que tu as vu des parties d'Ana de Armas.
Voilà, on voit les tétons d'Ana de Armas, voilà, très bien. Non, mais voilà, c'est l'argument du film, voilà, très bien, super. C'est un peu léger, je trouve.
Ils l'ont pas mis dans le plan com, hein, pour le coup.
Oui, enfin, c'est la pauvre, c'est les seuls trucs qu'elle a. Et elle fait une scène de ménage à son mec, voilà.
Mais non, mais je te dis, j'imagine qu'en plus, enfin, quand tu vois comment c'est décousu, elles ont sûrement tourné d'autres choses, hein. C'est où ? Est-ce qu'il va y avoir un director's cut de 4 heures un jour avec toutes leurs scènes ? Parce qu'elles sont où leurs scènes ?
Bref, c'était une déception. Mais cela dit, c'est presque à l'image de la bande-annonce. La bande-annonce, c'est j'avais rien compris, j'étais super excité. Bon, alors là, j'ai compris, mais du coup, je suis moins excité parce que le...
J'aurais compris au film, hein, j'ai toujours...
Je t'expliquerai, on va... Non, mais c'est...
Lire le livre.
Mais c'est ça, mais c'est que...
Non. Il faut juste lire le livre, en fait. Ça sera mon avis. On va lire le livre.
Non, mais c'est vrai que c'est dommage. C'est pas, ouais, y a un problème de montage, je crois, de tension. Et puis même les dialogues qui vont t'expliquer ce qui va se passer juste après, quoi. Et que tu vois, du coup...
Si, c'est ça. C'est, moi, j'avais l'impression, dès le début du film, t'as deux personnages qui parlent, qui font « Ah oui, après, tu vas rencontrer ça. » Et paf, ça coupe net. Le dialogue n'est pas terminé. Et oh, il est genre en train de rencontrer l'autre. Donc en plus, t'avais l'impression que ça voulait aller très vite. Et après, ça repart, ça rétro-pédale pour te réexpliquer au cas où c'est pas allé assez vite.
Dans le film, ils n'arrêtent pas de dire que vivre à Cuba, c'est hyper compliqué parce qu'il y a des coupures d'électricité, etc. Et à chaque fois qu'ils tournent à Cuba, il y a toujours de la lumière. Donc en fait, on nous explique un truc comme quoi c'est très dur de vivre là-bas, mais on ne nous le montre même pas visuellement. À chaque fois, je fais « Oh, on n'a plus d'électricité !» Mais oui, mais ça vient d'où ton plafond? Il y a de la lumière. Donc voilà, c'est que des petits détails comme ça où on a l'impression que en fait, le film n'est pas abouti. Il y a des trucs qui ne vont pas.
Oui, puis ils vont chercher des trucs au frigo, puis ils suivent les actus à la télé. Il faut mettre au crédit qu'il y a des images d'archives, voilà. Donc Bill Clinton et Fidel Castro jouent super bien leur rôle. Mais ça s'arrête un peu là. Bon, Cuban Network, déception. Bon Thierry, une semaine assez courte au final, mais chargée, en grosse sortie. Mais est-ce que tu as quelque chose que tu as vu à côté, dont tu as envie de parler ?
Ouais, j'ai vu Café Jack. Alors là, comme ça, tu sais pas trop, donc ça s'appelle What Did Jack Do ? C'est un court-métrage qu'a réalisé David Lynch en 2016, qui a été distribué par Netflix, là. Je crois que j'avais rarement vu un truc aussi con, mais dans le bon sens du terme. Et ça fait tellement du bien de voir David Lynch, puisque depuis... Il fait plus de long métrage depuis Inland Empire. Et bon, il a quand même pondu 18 épisodes de Twin Peaks, qui est un seul et même film et qui était la meilleure chose qui est arrivée depuis 10 ans. Et sûrement la meilleure chose pour les 30 années à venir. Bref, le pitch, c'est juste David Lynch qui joue un enquêteur, alors probablement l'enquêteur de Twin Peaks, qui interroge un singe sur un meurtre.
Mais c'était le crossover dont tu nous avais parlé, non ?
Oui, parce que c'est le singe de. c'est le singe qui jouait déjà, qui jouait Marcel dans Friends. Voilà. Et c'est, je me suis même posé la question sur la durée de vie des singes d'ailleurs, parce que, enfin, durée de vie, pardon, sur l'espérance de vie des singes, parce que bon, c'était 16 ans après quoi. Bref, du coup, alors le singe parle, enfin, ils lui font bouger les lèvres et il y a une voix off par-dessus. Une voix super chelou, comme Lynch sait le faire dans Twin Peaks quand ils sont dans l'espèce de zone un peu étrange où tout le monde parle au ralenti. Et donc, il lui pose des questions et l'autre il lui répond. Ça dure 17 minutes. Ça ressemble à rien, c'est vraiment des chants contre chants. C'est super chelou quoi, c'est super chelou, il lui répond qu'avec des phrases incohérentes, qui ont toutes un sens en fait, mis à part, mais qui n'ont aucun rapport avec l'intrigue principale. On te parle là d'un singe qui était amoureux d'une poule et du coup il a tué le mari de la poule qui était un homme, hein, évidemment, et c'est pour ça qu'il est accusé, et puis il veut s'enfuir avec la poule. À un moment on te balance une poule en plein milieu, mais une vraie poule qui caquette, qui ne parle pas ni rien, et le singe se met à la poursuivre parce que c'est son amante. C'est super chelou. On t'aurait fait parler la poule, tu serais dans un épisode de BoJack Horseman, mais en live action. Et là, tu te dis, c'est quand même le malaise énorme, quoi. Voilà. Mais je me suis bien marré. Faut regarder ce truc, c'est une anomalie. Et de toute façon, faut regarder tout ce que Lynch a fait, parce que même si c'est bizarre, c'est toujours une expérience. Et il est toujours très bon là-dessus. Voilà.
Ok. Ok. Moi,
je sais pas si je le vends bien, mais
Je sais, ouais, c'est assez space. Cela dit, c'est peut-être pas le pire truc à mater sur Netflix en ce moment.
Oui, hein.
Bon. Là, je suis en train de regarder The Witcher pour une autre émission. C'est une plaie.
J'ai commencé à regarder The Two Pops, on en parlera sûrement la semaine prochaine, c'est pas terrible. Hein.
Waouh.
Du coup, c'est pas une recommandation, The Witcher, parce que je ne le recommande pas du tout. Je pense qu'il vaut mieux découvrir The Witcher par les livres, peut-être après jouer aux jeux vidéo, parce qu'on m'a dit qu'ils étaient bien. Mais la série, c'est un nom complet. Hein. La série, c'est du vide total. Un peu comme Cuba Network, en fait. Voilà,
On voit les tétons d'Henri Cavill ?
Ouais, oui, alors ça, c'est le principal argument de la série. Voilà. Voilà. Et il y a 2-3 scènes d'épée qui sont sympas, d'escrime.
Si, bah, on parlait de série. J'ai vu Dracula.
Et ?
Et c'est vachement bien. Alors, ça s'épuise un peu sur le troisième épisode. Mais par contre, pour tous ceux qui aiment la patte Moffat et Gatiss sur Sherlock, éventuellement sur Jekyll, parce que j'ai pas tout vu, mais ça avait l'air d'être similaire, et sur les premières saisons de Doctor Who, enfin du reboot, tu reconnais énormément leurs pattes, avec les mecs qui te forcent des twists de partout pour inclure ça dans l'époque moderne, puis à d'autres trucs, ils se font énormément plaisir. C'est tellement bien écrit au niveau des dialogues, tout n'est pas parfait, mais ça fait du bien de voir ça.
Du coup, je m'en tiendrai à la reco qu'on a faite pendant Jojo Rabbit, c'est-à-dire le dictateur. C'était Certains les Machos. Merci Laura.
Merci.
Merci Thierry.
Mais de rien.
Et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode avec de nouveaux films que je ne sais pas encore lesquels parce que j'ai pas ma fiche sous le nez, mais c'est pas grave.
Il y a Bird of Prey qui sort.
Oh, c'est vrai. Thierry se barre pour Bird of Prey, c'est vrai.
Oh, je le rattraperai. Parce que je sais que tu vas mentir dans le podcast, je vais dire que c'était le film du siècle rien que pour que j'y aille de mon côté et pour que je fasse encore une zone étrange avec Marwan.
Ah bah, il y a Marie-Elisabeth Winstead dans le film, donc déjà plus un point.
Non. Elle choisit tellement mal ses rôles que non.
Le problème, c'est ça, c'est que j'aime beaucoup cette actrice, mais bon bref. Il y a un choix de carrière chaotique, on va dire.
Qu'elle peut. Elle n'a pas la reconnaissance non plus.
En attendant la semaine prochaine. Mettez 5 étoiles sur iTunes, enfin sur Apple Podcast, vous savez, la petite application violette sur votre téléphone Apple, ou sur le téléphone Apple de votre voisin, ou de votre cousin, ou autre. Piquez des téléphones Apple, mettez-nous 5 étoiles.
Ah, je sais pas, vous voyez un placement de produit Apple dans un film quand ils sont sur le téléphone, en fait, ils sont en train de mettre 5 étoiles. À Certains les Machos, évidemment.
Et le placement de produit, putain, je viens de penser au placement de produit McDo dans Kuban Network.
J'étais là, il y a Makoto Shinkai qui est venu réaliser une scène, qu'est-ce qui se passe?
Non mais c'est surtout qu'en plus, quand ils vont dans un autre fast-food, il y a le bel emballage de burger en polystyrène dégueulasse de l'époque, c'est les années 90. Par contre là, c'est l'emballage carton moderne d'aujourd'hui, avec marqué Big Mac en gros, c'est beau. Par contre, il a pas dit que c'était le meilleur repas de toute sa vie.
Il l'a pas dit.
Il l'a pas dit.
Mais il a dit que c'était quand même meilleur que les Mac Castro qu'il mange à longueur de temps.
Aïe 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 aïe. Si cela vous. Si le placement de produits. Ah, ben je sais, on va faire un jeu. Quels sont les plus beaux placements de produits que vous avez repérés dans des films? On va faire un jeu sur Twitter, voilà.
Wayne's World ne compte pas. Parce qu'ils sont vraiment voulus, c'est pour ça.
Donc, mettez-nous dans Twitter, en commentaire de l'épisode ou de la petite vidéo qu'on va mettre en clip. Dites-nous quels sont les plus beaux placements de produits que vous avez repérés dans un film. Qu'ils soient faciles ou pas, ça nous fera plaisir. Il y avait le faux IT aussi qui était pas mal en placement de produits. Bon, bref. On se rappelle, sur Twitter, c'est clacpodcast, @clac, C-L-A-A-C, podcast. Et pareil sur les autres réseaux, Twitter, Facebook, Instagram. Il est l'heure de partir, je crois. Il y a un Gremlins qui va nous attaquer, donc je quitte. À la semaine prochaine. Bisous, bisous, bisous.
Bisous.
Ouais, voilà, c'était hors micro, le micro était un peu long, on l'a pas entendu, désolé.
C'est pas grave.
Qu'est-ce qu'elles ont dit?
Moi j'ai dit, où est-ce qu'on peut te retrouver? Regarde derrière toi.
Excellent, ça fera la fin.
C'est la deuxième fois.
Ouais. Comme un film de Taika Waititi.
Et sur ce, la bonne soirée.
Ben, c'est meilleur double tape que Zombieland déjà. Mais c'était pas. Ouais, ouais, c'est ça.
Bah, par contre, on n'est pas obligé de citer son bilan. Hein, je veux dire.
Non, mais c'est pour ça que j'allais couper. Voilà. Mais je tourne tant qu'on parle et qu'on est en brainstorming de conneries. Non, je... non je... voilà.